Cinéma, cinéma, Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, Laurel et Hardy, deuxième partie. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Laurel et Hardy, deuxième partie. Donc, alors, ce qu'on va étudier maintenant, c'est plutôt le mode de fonctionnement. Alors, mode de fonctionnement du couple à l'écran, mais aussi de manière plus courte, comment ça fonctionnait dans la vie, qui travaillait plus que l'autre. Alors, sur le fonctionnement à l'écran. Parmi les films les plus célèbres, sur une centaine de films des deux bobines, on a vu ce que c'était pour la première partie, 20 minutes, Les Compagnons de la Nouba, Laurel et Hardy conscrit, Les Axes d'Oxford et Laurel et Hardy au Far West. Alors les gags jouent sur la répétition et la lenteur. C'est l'inverse des punchlines d'aujourd'hui. Laurel se prépare à faire une bêtise, une ânerie, une sottise, peu importe le terme, une maladresse. Hardy le regarde sans rien venir. Puis la bêtise est accomplie par Laurel. Hardy va s'énerver, va l'engueuler, mais ça ne fait qu'aggraver la situation. Et alors Hardy va inventer une situation, utiliser une situation qui est très peu usitée à l'époque. Au théâtre, on dirait qu'il va briser le quatrième mur, comme Guitry le faisait parfois. C'est-à-dire, il regarde le spectateur. Il se tourne donc vers le spectateur, le regarde avec une grimace, disant « Vous voyez ce que je suis obligé de faire pour régler les bêtises de Laurel ?» Donc cette attitude de couple se retrouve à d'autres moments. C'est-à-dire que le duo avec Laurel qui va regarder à droite et à gauche, il va se gratter le crâne, ça c'est un gars qui revient systématiquement. Hardy, lui, va lever le menton, remue sa cravate souvent, il va râler. Et Laurel va baisser la tête penaud, mais continue la bêtise. Et ils vont petit à petit aller plus loin. Laurel prend un air idiot, il écarquille les yeux et Hardy va le prendre à partie. On a presque pitié de Laurel, mais généralement, c'est lui qui cause un dommage à Hardy. Donc, il y a ce moment où Hardy est désespéré, c'est là qu'il regarde le spectateur. Alors, thème récurrent chez Laurel et Hardy, c'est la destruction et l'étalement du gag sur la longueur. Deux éléments qui se rejoignent parfois avec une destruction qui monte en puissance. Alors, destruction, un exemple simple, et puis j'insisterai sur notre film. Vous avez, par exemple, pour une voiture dans Voilà la flotte, où la flotte est dans le lac, ils jouent deux marins en permission qui sont au volant d'un véhicule et une altercation se produit avec des passagers d'un autre véhicule. Et là, chacun va aller vers la voiture, arracher, l'autre vient, arrache. Alors, je donnerai... Alors, c'est difficile, effectivement, de donner l'humour de Laurel et Hardy, mais je vais essayer de vous décortiquer un deux bobines qui marche très, très fort dans la destruction. Le film s'appelle « Œil pour œil », il date de 1929. Alors, Laurel et Hardy portent des sapins, ils offrent des sapins à des clients. On leur ferme la porte au nez et ils vont sonner chez un propriétaire particulier qui est joué par James Finlayson. Alors, c'est un personnage qui, comme chez Chaplin, revient. Chez Chaplin, vous rappelez, il y a Eric Campbell, ce colosse de 1m90 qui est bourreau puis victime de Chaplin dans divers films. Alors, pour revenir à la situation dans Œil pour œil, le bout d'une branche de sapin se coince dans la porte. On râle, on ressonne, c'est le manteau de l'oreille qui se coince, puis à nouveau le sapin qui est coincé. Donc le propriétaire commence à être fou furieux. Il va, à un moment donné, couper le sapin en trois morceaux. Le duo va arracher les numéros de l'adresse, puis la violence commence à être physique, on tord l'oreille, puis on coupe la cravate. Et là, à ce moment-là, James Finlayson va vers la voiture, commence à arracher un phare qu'il jette sur le pare-brise. À ce moment-là, Laurel et Hardy vont couper une lanterne extérieure et casser une vitre. Puis, ils détruisent la porte à la hache. Finlayson arrache le volant, le réservoir à essence. Donc, ça devient petit à petit une destruction qui augmente en rythme. Alors, il y a un policier qui passe en voiture. Il va tout noter pendant que Hardy, prenant sa pelle qui a détruit le jardin comme une batte de baseball, va casser ce que lui envoie Laurel par la fenêtre. Donc, finalement, quand le policier intervient, il demande « Mais qui est responsable ?» Alors, tous les trois prennent l'air un petit peu bête et semblent dire « Non, c'est l'autre qui a commencé. » Donc, James Finlayson désigne Laurel et Hardy du doigt. Ceux-ci se mettent à pleurer ou font semblant. Et quand le policier se tourne et se met à pleurer lui aussi, il s'en va. Mais quand il est parti, Laurent et Hardy vont se mettre à rire. Donc le policier les voit et il les suit, ils partent en courant. C'est le dernier plan. Donc ce que je voulais dire en décrivant ce deux bobines qui est difficile encore une fois à résumer, c'est cette violence qui monte crescendo. Puisqu'on part juste d'un sapin qui est coupé, d'une cravate qui est coupée, et on monte en puissance jusqu'à ce que la voiture saute complètement et soit en morceaux, et jusqu'à ce que la maison soit à moitié détruite. Donc ce sabotage, ces gags répétitifs vont se retrouver dans beaucoup d'autres films. Alors les titres, c'est bricoleur, menuisier, ramoneur, électricien. Chaque fois, il y a une dégradation du système. Par exemple, ils installent une antenne radio sur un toit. Ils ont du mal. Chaque fois, Laurel Hardy tombe, puis remonte. C'est le gag de répétition. Et puis, finalement, c'est la femme de Hardy qui part et qui a laissé tomber la radio. Donc, tout le travail était fait pour rien. Un autre court-métrage qui est aussi en montée crescendo, ils vont livrer un piano. C'est un court-métrage de 1932. Livreur, sachez livrer. Et ils montent un escalier. Et chaque fois, ils vont faire une bêtise et c'est le piano qui va redescendre l'escalier. N'oublions pas aussi qu'ils ont inventé le gag des tartes à la crème. Dans La bataille du siècle en 1927, tout est consacré à cette bataille de tartes à la crème, qui sera reprise notamment dans La grande course autour du monde de Black Edwards en 1965. Donc des gags qui montent en puissance, et puis cette originalité qui touche parfois des gags nouveaux et particuliers. Donc on a la possibilité d'écouter plusieurs morceaux. Donc, je vous laisse écouter ce morceau en vous disant après de quoi il s'agit. Il s'agissait de la musique de Laurel et Hardy au Far West. Alors, ce film est un des meilleurs qui a été tourné Et peut-être pour commencer à aborder le Waller 10, c'est ce qu'il faudrait voir. On trouve dans ce film le type de gag récurrent de Laurel et Hardy. Alors, c'est ce qu'on peut appeler le gag du briquet. On a Hardy qui se met à fumer et Laurel utilise son pouce comme un briquet, c'est-à-dire il va le sortir de sa main fermée comme un poing et il va allumer la pipe de Hardy. Et il remet le pouce dans sa poche, la main dans sa poche. Hardy va attraper la main, la regarde et ne voit rien. Et alors quand Laurel est dans son dos, il essaie avec ses pouces, mais ça ne marche pas. Suivant, dans le même thème, il rentre dans une maison avec une bougie, elle s'éteint, Laurel rallume avec le pouce en tant que briquet, puis Hardy va essayer de le faire, ça ne marche pas, et puis tout d'un coup, à la seconde fois, ça marche. Il est totalement affolé, il crie, et tout le monde se précipite pour éteindre, et il quitte les lieux, le duo quitte les lieux rapidement. Donc, c'est un gag qui repose sur une répétition, là encore sur Hardy qui ne comprend pas tout à fait ce que fait Laurel et qui, quand il réussit, devient complètement affolé. Autre gag qui est présent dans Fra Diavolo, c'est ce qu'on peut appeler le gag de la main. Alors, en anglais, le gag du finger wag. C'est-à-dire que Laurel pose ses mains à plat l'une sur l'autre, puis il les fait pivoter et il agite le majeur perpendiculairement des deux côtés. Alors là aussi, à mon avis, il y a un trucage. Hardy veut faire pareil, mais ça ne marche pas. Donc, même mécanisme, Laurel y arrive et Hardy n'y arrive pas. Et dans ce film, il y a aussi un exercice où Laurel va se toucher successivement le nez, les oreilles, le genou, et là encore, impossibilité pour Hardy de reproduire le mouvement effectué. Dans ce film donc, qui s'appelle Fra Diavolo, il y a un mélange de musique et de paroles. C'est ce que nous allons écouter maintenant. Fra Diavolo.
Oh,
Chez Laurel et Hardy, il y a un élément original, c'est la place des femmes. Une originalité parce que l'image de la femme est totalement opposée à celle des actrices de l'époque. Alors, il y a une partie, une dimension positive, puisque les principales vedettes, c'était des blondes pulpeuses, parfois provocatrices, à l'époque Mae West, on pourrait dire plus tard Marilyn Monroe. Donc, les films de Laurel et Hardy, c'est le contraire de cela. Ils mettent en scène des femmes mariées, souvent avec eux, bien sûr, au physique commun, voire revêche et désagréable. Alors, la dimension négative, c'est qu'on peut considérer que l'on tombe dans une image presque trop caricaturale de la femme dominatrice, destructrice, avare et castratrice, en fait. On arrive à ce terme-là. Donc, violence parfois physique et rouleau à pâtisserie, parapluie, etc. Parfois même fusil. Alors, cela apparaît dans plusieurs de bobines en particulier. Vous avez en 1928 la Minute de vérité, dont Laurel et Hardy doivent donner leur salaire à leurs femmes, qui les gardent et vont l'utiliser à leur gré en donnant une partie de cela à leur mari. Donc, Laurel a réussi à mettre un peu de côté de l'argent pour financer une sortie avec son ami. Mais la femme de Laurel a vu cela et remplace l'argent par des papiers sans valeur. Et lorsque Laurel et Hardy rencontrent deux femmes qui s'en mettent en boîte de nuit, bien sûr, ils n'ont pas d'argent pour payer. En 1928 aussi, on a gaffé. Même principe, Laurel et Hardy mentent pour fuir leur foyer, jouer au poker et rencontrer de jeunes femmes. Leurs épouses se rendent compte de la manipulation et vont venir munies de fusils de chasse. Dans les joies du mariage, c'est particulier, Laurel et Hardy jouent à la fois leur propre rôle et le rôle de leur femme. Et dernier, les compagnons de la Nouba en 1933, toujours le même scénario. Les deux amis mentent à leur femme, ils prétendent être malades pour aller à une réunion correspondant à une confrérie, on dirait des francs-maçons ici, et bien sûr, ils sont découverts. Donc là, dimension positive et la dimension négative, ce sont les deux faces de la même réalité, puisque on ne voit pas à cette époque-là du tout cette image de la femme. Alors, que peut-on dire pour terminer, je dirais, sur le mode de fonctionnement à l'écran ? Il y a incontestablement une nature sadomasochiste dans certains films. Cette violence sauvage, contenue, qui monte, ils en viennent aux mains ou à la destruction. Et effectivement, c'est un rien qui va mettre le feu aux poudres, un malentendu, une insulte imaginaire ou réelle. Et cela conduit à une escalade systématique dans ce sadisme. Donc, rigoureusement, on évolue, ce crescendo et cette violence aveugle qui se poursuit. Alors, quelques génériques de films de manière rapide. D'abord, les As d'Oxford. Thank you. Oui, pour terminer sur leur action, on peut rajouter l'élément relatif au bruitage. Il y a un bruitage important. Par exemple, une chute violente s'accompagne d'un bruit excessif. Quand Hardy cogne le crâne de Laurel, il y a un son de cloche. Et s'il y a une explosion, tout devient noir et le duo emporte la trace. Si l'un ou l'autre tombe dans une baignoire, là aussi, bruit accentué. Donc, ces éléments, tout cela est en fait mis en scène par Laurel. Puisque le mode de fonctionnement dans la vie, c'est celui-là. Laurel, dès qu'il a commencé à intervenir au cinéma, va être, au-delà d'acteur, scénariste et réalisateur. Donc, pour le couple, c'est Laurel qui fera tout le boulot de préparation, d'écriture de scénario. Hardy vient simplement sur le plateau quand il va tourner et il est réputé pour être un bon golfeur, donc il quitte ses parties de golf parfois à regret pour venir tourner. Donc, ce schéma dans la vie est finalement contraire à ce qu'on voit à l'écran. C'est Laurel qui décide de tout et Hardy qui va exécuter ce qu'on lui demande. Alors, comme tout duo, comme tout acteur, il y a un déclin. Cela peut toucher Chaplin, notamment. Le dernier film qu'il a fait, La Comtesse de Hong Kong, c'est vraiment pas terrible. Tati a aussi connu une baisse. Donc, beaucoup de créateurs, que ce soit aussi en matière de littérature ou de peinture, ou ailleurs, ne vont pas toujours maintenir le même rythme. Ils vont baisser. Donc, pour Laurel et Hardy, le dernier film ensemble, il est vraiment raté. C'est un film qui s'appelle Atolka de Léo Janon en 1950. Est-ce que c'est le film de trop ? On peut penser que oui. Voici la musique de Atolka. Quand leur carrière au cinéma va disparaître, puisque après ce film-là de 1950, ils ne vont plus apparaître tous les deux dans leur rôle de Laurel et Hardy, et ils vont partir en tournée, notamment en Angleterre, en 1953, pour remonter sur les planches et présenter des morceaux de ce qu'ils ont tourné. Par exemple, la danse de Laurel et Hardy au Far West, qui est assez réputée. Alors, il y a un film... C'est rare qu'on trouve un film sur Laurel et Hardy. Il y a des films documentaires. Ce film-là est biographique et a été présenté en 2018 par John S. Byrne. Il s'appelle Stan and Ollie, donc Laurel et Hardy. Et ce film retrace les dernières semaines de ce duo. Leur carrière est sur le déclin. Plus aucun producteur ne veut les financer. Leur argent s'est dilapidé au fil du temps. Et ils décident donc de parier sur une dernière tournée en Angleterre en 1953. Donc ce sont des has-been qui ont du mal à remplir les salles, ils reproduisent les gags de leurs films et ils ne peuvent finalement intéresser que les initiés. Alors ce film s'appelle Stan et Ollie, nous allons écouter la musique. Thank you. Un mot très rapide sur la vie privée qui ne m'intéresse pas en général, donc sans l'artiste m'intéresse. Mais on peut dire que Stan Laurel et Arnie ont été mariés plusieurs fois. Et donc, on dit parfois qu'il fallait payer les pensions alimentaires. Donc, Arnie meurt en 1957, Laurel en 1965. Et leur carrière, comme je l'ai dit, était vraiment au point mort depuis longtemps. Alors, que peut-on dire, je dirais, en conclusion de ces émissions ? En fait, que ceux qui ont vu les films de Laurel et Hardy les revoient, que les plus âgés mobilisent leurs descendants, si je puis dire, pour se familiariser avec ce duo. Il y aurait une sorte de passage de témoin. Il y aurait, je dirais, comme but pour moi, pour les plus âgés de leur rappeler ce qu'était le duo, et pour les plus jeunes de leur donner l'envie de le découvrir, même si, encore une fois, c'est difficile de le regarder seul devant son écran. Donc, une recommandation pour se familiariser avec ces films. Alors peut-être vous ne marcherez pas du tout, peut-être vous marcherez. Donc enchaînement crescendo, on l'a pour le film de Bobine, œil pour œil, ce que j'évoquais tout à l'heure, l'histoire du sapin. Et pour le long métrage, c'est Laurel et Hardy au Far West, où il y a une démonstration de tout leur talent, des différentes facettes de leur talent. Voilà, donc Laurel et Hardy sont pour les historiens du cinéma au même niveau que Chaplin. Peut-être est-ce exagéré, mais en tout cas, ce sont des commis qui ont réussi une carrière originale. C'était Cinéma Cinéma, une émission de Jacques Viguier. Avec à la technique Grégor. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie ainsi que sur l'application pour smartphone. Bonne semaine à tous et à toutes. Thank you.